Bonjour à tous. Ça va ce matin? Nous sommes dans le soleil du sud-ouest. C'est la plus belle région du monde. Non, on est bien ici. On est content d'avoir notre frère Vincent avec nous. On est content. C'est une belle histoire parmi nous. Et vous qui nous rejoignez sur le net, Dieu vous bénisse aussi et vous garde dans sa paix. Que tout se passe bien pour vous et que la parole que je vais annoncer ce matin puisse vous faire du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien quand j'ai préparé mon message dans mon bureau hier. Ça m'a parlé, et si ça me parle à moi, ça peut parler à n'importe qui, parce que je suis comme monsieur tout le monde. Hein, il suffit simplement d'avoir un cœur et des oreilles, et voilà. Et ça passe, hein. On va lire dans 1 Corinthiens 13, 13 ce matin, mais je vais vous faire la lecture dans la version de la parole vivante d'Alfred Kuhn, que j'aime bien. J'aime bien les anciennes versions d'Alfred Kuhn. Je n'aime plus les nouvelles versions d'Alfred Kuhn, parce que ils ont traficoté et j'aime pas. Tandis que, mais là, j'aime bien. Donc, je vous lis, c'est une vieille version. Quand je dis vieille version, elle date de... Enfin, elle date des années 70-80 par là autour. Je vous lis. En somme, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Vous connaissez tous ce texte. Là, il ne s'est pas foulé, Alfred Kuhn. Hein, c'est la même chose que dans les autres textes. C'est une version qui est bien parce qu'elle est amplifiée. Et par exemple, 1 Corinthiens 13, que vous connaissez tous, sur l'amour, là où vous avez deux lignes dans la version seconde ou la version de Jérusalem, là vous en avez 10. Parce qu'il met toutes les significations des mots. Il a fait lui et son équipe, ils ont fait un bon travail. Voilà. On était voisins en Suisse. Je ne l'ai jamais rencontré. Il a fallu que j'aille à, je ne sais plus où, c'était en Afrique, je ne sais plus dans quelle ville, à Yaoundé, ou je ne sais plus, pour le rencontrer dans un séminaire. C'est quand même bizarre, hein, la vie commençait. Voilà ce texte extraordinaire. Dans toute la Bible, c'est le seul passage qui nous permet de trouver ces trois vertus réunies dans un seul verset. La foi, l'espérance, l'amour. La Bible parle partout de cela. Mais c'est le seul verset où ces trois vertus sont réunies ensemble. Prions. Seigneur Jésus, je te demande que vraiment tu nous éclaires et tu nous aides pour que notre vie soit plus élevée, plus paisible et plus à ta gloire. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Alors dans certaines versions, ils n'ont pas mis l'amour, ils ont mis la charité. Mais le mot charité, aujourd'hui, il a perdu de son sens. Le mot amour aussi, vous me direz, il a perdu de son sens. Mais là, Paul nous parle de l'amour spirituel. J'explique, si on va chercher vraiment dans l'origine du mot, ça n'a rien à voir avec l'amour pulsion, souvent désordonné, passionnel, que les terriens, j'aime bien dire les terriens, parce que nous on n'est pas de ce monde, que les terriens appellent amour. Vous voyez, dans son sens originel, le mot charité, il désigne l'amour de l'homme pour Dieu, d'où découle nécessairement l'amour pour son prochain. Vous voyez que c'est très riche. Mais aujourd'hui, la charité, ça exprime un acte qu'on peut faire sans amour. Hein. Pour se consoler le cœur, on va donner 2 balles à Coluche, ou acheter le disque des... Voilà. Faire la charité, on dit. Hein. On dit aussi faire l'amour, on dirait. Mais enfin, voilà. Les mots, c'est important. Que de personnes charitables, par exemple, empoisonnent la vie de leur famille, empoisonnent la vie de leur entourage. Pourtant, ils sont charitables, ils sont très généreux, ils donnent à gauche, à droite, partout. Vous voyez, on peut rencontrer des personnes charitables, mais les bonnes personnes avec de l'amour, c'est quand même beaucoup plus rare. Donc, on va parler de la foi, de l'espérance et de l'amour, en sachant bien qu'il s'agit là de l'amour que nous avons pour Dieu, d'où découle l'amour que nous avons pour notre prochain. En théologie, alors, ces trois vertus, on les appelle les vertus théologales, ce qui signifie, c'est des vertus qui ont Dieu pour objet. Ça, c'est en haut dans les vieilles barbes dont je fais partie. Pour les simples chrétiens, dont je fais partie aussi. Pour tous les gens en général, enfin tous les gens, espèrent, croient, aiment. Voilà, point. Mais si leur croyance à tous ces gens, leur espoir, leur foi, leur amour ne les aide pas et ne leur apporte que des déceptions, c'est parce qu'ils ont mal placé justement cette croyance, cette foi et cet amour. Ils l'ont mal placé. Beaucoup ne savent même pas ce que signifie croire en Dieu. Je suis croyant. Beaucoup de gens me disent « je suis croyant ». Mais on voit quand on parle avec eux qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est que d'être croyant. Parce que si on croit en Dieu, mais on ne s'appartient plus, on a conscience de sa présence avec nous, c'est tout autre chose que simplement « voilà, ben je crois ». Beaucoup ne savent pas ce que ça veut dire espérer en Dieu, mélange aussi l'espérance et la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Où est la différence? Maintenant, pour bien expliquer tout ça, on va se projeter dans un désert où Jésus se trouvait et où il a été tenté par le démon. Il y a eu trois tentations. Et ces trois tentations, elles concernaient le corps, elles concernaient l'âme et elle concernait l'esprit. Vous allez relire ça dans Matthieu chapitre 24, vous allez voir que là, le diable a attaqué les trois points. Est-ce que le pain, ça c'est pour le corps. Enfin, vous lirez, vous verrez. Alors, sur chacun de ces plans, corps, âme, esprit, nous avons nous aussi à être éprouvés. Parce que nous ne pouvons pas, la Bible dit, si nous ne souffrons pas avec Christ, nous ne pourrons pas hériter de sa gloire. Est-ce qu'il a souffert? Pas la croix, ça c'est quelque chose de complètement à part. Il n'y a personne qui pouvait souffrir ça, sinon lui. Mais autrement, eh bien, nous sommes sujets à toutes sortes de souffrances, et si nous ne passons pas bien ces caps, voilà, on héritera du royaume de Dieu, mais il y a des récompenses qui nous échapperont, qui nous fileront sous le nez, parce qu'on n'aura pas bien passé les épreuves. Et nous avons à affronter des adversaires et nous surmontons les difficultés. Nous ne surmontons vraiment les difficultés que si nous espérons en Dieu, si nous avons la foi en Dieu et si nous l'aimons. Espérer en Dieu, ça signifie voir au-delà de nos difficultés. La foi, elle est basée sur quelque chose qui est déjà fait dans le passé. Jésus nous a déjà pardonné, Jésus nous a déjà guéri, Jésus nous a déjà fait les promesses. Donc on peut avoir foi dans ce qu'il a déjà fait. L'espérance, ça concerne après. C'est-à-dire au-delà de nos difficultés. Avoir foi en Dieu nous préserve des illusions. Parce que avoir foi en Dieu, c'est croire dans quelque chose qui est absolu, la parole de Dieu. Et aimer Dieu, ça nous projette jusqu'au sommet et ça nous aide à nous y maintenir. Mais encore, faut-il savoir que ce sommet, il est en nous. Beaucoup trop de chrétiens vont le chercher au ciel. Mais c'est vrai que notre Père qui est aux cieux, c'est ça, mais par son esprit, c'est en nous qu'il vit. Et c'est en nous que nous allons le trouver au sommet, en nous-mêmes. Parce que s'il vit en nous, puis qu'on va le prier, lui, à l'extérieur, loin, loin, loin. Non, 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 non. Il est en vous, avec tout ce que cela comporte. Alors c'est ainsi que nous pouvons vivre de la vie de Dieu, même et surtout dans les épreuves, comme Jésus. C'est le seul moyen qu'on a de s'enrichir, d'enrichir notre esprit, d'enrichir notre âme, d'enrichir notre vie. C'est d'espérer en Dieu, c'est d'avoir foi en Dieu, et c'est de croire dans son amour et de l'aimer. Et ces vertus, elles ne sont pas abstraites, c'est très pratique. Elles constituent réellement les piliers de notre vie, réellement. Les incrédules ne l'expérimentent pas Et beaucoup de croyants ne l'expérimentent pas non plus, tout simplement par ignorance. Ils ne savent pas, et ils ne savent pas la plupart du temps parce que personne ne leur dit. Et ils meurent, comme nous dit la Bible, par manque de connaissances. Ils ne connaissent ni Dieu, ni sa puissance. Ils connaissent peut-être des fois, il y en a qui connaissent mieux la Bible que moi, mais ils la comprennent. C'est bizarre. En fait, ils ne comprennent ni les écrits, ni la puissance de Dieu. Il n'y a rien qui se passe. Ça reste dans le niveau psy, c'est-à-dire dans l'âme. C'est une intelligence, une sagesse, quelque chose. C'est très évaporé. Alors, c'est à nous d'entrer dans la lumière, de ne pas rester dans l'ombre de la méconnaissance. C'est à nous d'entrer dans la lumière, de faire un effort pour entrer dans la lumière de la personne de Dieu et de sa puissance. Elle est là, cette puissance, elle est là, cette lumière, il est là, Dieu, il est omniprésent, on ne peut pas trouver un endroit où il n'est pas, mais nous pouvons être n'importe où dans le monde sans être présent, sans avoir conscience d'être dans la présence de Dieu. Et c'est ça le problème, c'est à nous d'entrer dans cette présence, de comprendre, de réaliser, voilà, il est présent. Alors, invoquez le nom de Yeshua sur votre vie, ça c'est très très important, même si vous ne ressentez rien, il faut le faire, il faut invoquer son nom, avec amour, avec foi, avec espérance, tranquillement invoquer le nom de Yeshua, Seigneur Yeshua, je t'aime, j'aime ta sagesse, j'ai foi en ton amour, j'espère en ta puissance, invoquer en lui disant cela. Il y en a qui m'ont dit, mais il est quand même bizarre, Dieu il veut qu'on l'adore, il veut qu'on... Alors, il dit, mais nous, moi je ne suis pas comme ça, je ne veux pas qu'on m'adore, j'arrive pas à comprendre, c'est quoi ce Dieu qui veut qu'on... Mais attends, quand on aime quelqu'un, moi j'aime bien quand ma femme elle me dit qu'elle m'aime, pas vous? Et les femmes, elles disent toujours, tu m'aimes. Mais c'est normal. On aime bien. On sait. Moi, je sais qu'elle m'aime, mais ça fait du bien d'entendre dire. Nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est la même chose. Il faut lui dire que vous l'aimez en invoquant son nom. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous faisons ça, quand nous créons ce dialogue? Parce que c'est un dialogue à la fin. Au début, c'est un monologue, puis ça devient un dialogue. Alors, votre amour vous lie à sa sagesse, à la sagesse de Dieu, votre foi vous lie à son amour, et par votre espérance, vous vous liez à sa puissance pour le après. Et vous êtes dans la paix. Mais vraiment, c'est, j'allais dire une recette, mais c'est une recette. Pourquoi est-ce que nous sommes invités à invoquer son nom? Pourquoi nous sommes invités à faire attention de ne pas invoquer son nom à la légère? Parce que c'est de la plus haute importance d'invoquer son nom. Il n'y a aucun autre nom qui n'ait été donné dans tout l'univers que celui de Yeshua. Les apôtres ont dit, c'est par le nom de Yeshua, par le nom de Jésus que cet homme a été guéri. C'est par le nom, rien que le fait de le prononcer. Beaucoup de chrétiens aiment Dieu de tout leur cœur, c'est bien, mais le cœur a beaucoup d'enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire transport divin. Hein? Un transport divin. Par contre, il manque de le cœur, de discernement. Il manque de mesure, je dirais. Alors, ces gens-là qui aiment Dieu de tout leur cœur, c'est-à-dire de toute leur âme, ils s'exposent à bien des erreurs, à bien, ils s'exposent à la souffrance. Il faut tempérer la chaleur de notre cœur en recherchant la sagesse divine. Pour avoir la vraie foi, une espérance qui tient debout. Tout est possible à celui qui croit. Chiche, marche au plafond. Le passage. Marche sur l'eau, vous me direz, c'est pas sage non plus. J'ai vu des... Vous savez qu'il y a des yogis qui marchent sur le feu. Et un jour, j'étais dans une réunion où il y avait des gens qui faisaient ça. Moi, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis mis pieds nus, et j'ai marché aussi. Ça ne m'a rien fait du tout. Au nom de Jésus. Et vous, il y en a plusieurs parmi nous qui l'ont fait aussi. Non, mais c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Moïse, il a changé son bâton en serpent. Les magiciens l'ont fait aussi. Mais le serpent de Moïse, il a bouffé le serpent des magiciens. Notre force... Ils peuvent imiter notre puissance, mais c'est nous qui avons la plus grande. Amen. C'est la vérité. Mais il faut avoir la sagesse. Hein. Voilà, ça ne sert à rien à démarcher sur le feu. C'est juste pour démontrer sa puissance hein, quand il y a besoin. Mais on peut le faire autrement. Jeudi, avec notre frère Vincent, on parlait au sujet du pain et du vin. Tout ça, vous allez voir, ça a l'air décousu, mais ça va se mettre en place. Jésus a dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Est-ce que vous avez réalisé, mes frères et sœurs? La sagesse nous enseigne que nous avons ici et maintenant plus que Adam et Ève n'avaient dans le jardin d'Éden. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils mangeaient ce que les animaux mangeaient. Ils mangeaient comme des animaux. Mais nous avons le pain du ciel. Depuis que Jésus est venu, nous avons une nourriture divine. Ça, c'est la seule vraie nourriture pour l'humain. Alors, il nous dit, oui, mais voilà, alors le pain, le vin, c'est le symbole de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Jésus nous dit, on trouve ça dans Jean 4, 32, 33, que sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Jean 4, 32, 33. J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient entre eux, est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? Ouais, ils étaient bas de plafond quand même, de temps en temps, comme nous. Hein. Voilà. Et Jésus continue en disant, « Ce qui me nourrit, leur explique Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Mais c'est ça la nourriture de Dieu. Quand nous aimons Jésus, que nous avons foi en ce qu'il a fait pour nous, pour le moment présent, et que nous avons l'espérance pour l'avenir, alors nous accomplissons la volonté de Dieu parce que nous la connaissons. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tout ce qui est écrit là, c'est la volonté de Dieu. Ah, les gens prennent beaucoup le côté négatif, ne fais pas ci, ne fais pas ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais il y a des tas de choses que Jésus dit que nous pouvons faire et que nous n'osons pas faire. Et c'est bien malheureux parce que c'est tellement beau de faire comme Jésus a fait. Il a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez faire des choses encore plus grandes si seulement vous croyez. Et il y a tant de choses qu'on peut faire. Beaucoup de gens s'imaginent que sous la grâce, il n'y a pas de loi, mais il y a plein de lois dans le Nouveau Testament. J'en avais compté, je ne sais plus combien je vous avais dit, je crois, 28 commandements de Jésus. 50
dans
l'évangile de Matthieu. De choses, faites-le.
Voilà.
Faites-le. Hein, ce n'est pas Nac qui a inventé ça. Hein. C'est Jésus. Faites-le. La nourriture que nous avons, c'est celle de Jésus. Sa nourriture, c'était de faire la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens se cassent la tête à savoir, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Elle est écrite. Qu'ils fassent déjà ce qui est écrit. Après, il leur précisera des choses au sujet de l'endroit où il faut le faire, peut-être, ou le temps où il faut le faire. Mais déjà, faites là tout de suite ce qui est écrit. C'est ça. C'est frère Osborne qui m'a appris. Il m'a dit, mais frère, j'entends. Je vois ces chrétiens qui prient pour connaître la volonté de Dieu. Ils perdent un temps considérable. Il n'y a rien de plus simple que de savoir qu'est-ce que Dieu veut. Aime ton prochain, aime ton ennemi. Prie pour lui, bénis-le, donne à manger à ceux qui ont faim. Prie pour les malades. Déjà, si on fait ça tous les jours. Et tant d'autres choses. C'est-à-dire que chaque jour, Jésus espérait dans son Père, il avait foi dans son Père, il aimait son Père. Il se levait dès le matin, il se préparait dans la prière, il se mettait en communication, et puis voilà, il y allait. Et comme il a été envoyé lui, il dit « Je vous envoie ». C'est-à-dire de la même manière, ni plus, ni moins, je dirais même plus que moins. Puisqu'il dit « Les choses que je fais, vous en ferez de plus grandes ». Est-ce que j'ai fait des choses plus grandes que Jésus? Peut-être pas, mais en tout cas, plus longtemps, oui. Lui, il a fait que 3 ans et demi, moi, ça fait depuis 68. Vous voyez? Et comme il a été envoyé dans le monde, nous sommes aussi envoyés dans ce monde. Nourrissons-nous donc de la même nourriture dont il se nourrissait alors qu'il était dans cette condition mortelle qui était la même que la nôtre. Quand il se coupait, ça faisait bobo. Il était la même chose. Si nous le faisons, nous sommes des hommes nouveaux. Mais seulement si nous le faisons. Si nous le faisons, nous sommes les nouveaux Adam. Lui, il est le premier nouvel Adam. Mais il a dit, il prolongera ses jours au travers de nous. Et nous serons dans ce monde tel il était lui dans ce monde. Jean le disait, 1 Jean 4:17. Tel il est dans ce monde, tel nous sommes. Alors penser, agir avec espérance, pour l'avenir, foi absolue, ancrée, parce que c'est déjà fait, il l'a promis, et l'amour, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas nous jouer des sales tours, il nous aime, il veut le meilleur pour nous. Alors, c'est intégrer Jésus dans notre vie, et le pain et le vin, ben c'est le symbole de ça. Sa chair et son sang, nous avons de la chair et du sang, nous aussi. Vous savez, on n'a pas besoin d'aimer l'amour, on a juste besoin de croire dans l'amour. Croire dans l'amour. Les enfants, ils croient dans l'amour de leurs parents. Je vous rappelle toujours, Raphaël, il racontait cette histoire, il disait qu'il y avait un papa, il était dans la cave, et il y avait des grands escaliers qui descendaient. Et son fils, il voyait un trou noir, il était tout en haut, il voyait un trou noir, l'escalier qui descendait, il ne voyait rien. Et son père lui dit, saute, je te retiens. Et le gamin, il a sauté parce qu'il faisait confiance, il croyait dans l'amour de son père. Oui, la foi et l'amour, ça va ensemble. Il aurait entendu une autre voix qui lui disait, saute, il n'aurait pas sauté, le gamin. L'amour, ça ne va pas sans la foi. La foi, ça ne va pas sans l'amour. Alors, il faut connaître ce Dieu d'amour. Pour le connaître, le meilleur moyen que nous avons, c'est de faire connaissance au travers des saintes écritures, mais en étant inspiré par l'Esprit, c'est-à-dire en lui demandant de nous inspirer, et non pas en comptant sur notre propre intelligence. Je vais vous dire quelque chose. Si je crois en vous, vous allez m'aimer, n'est-ce pas? Ah oui, c'est juste, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu, et quand je vois quelqu'un qui m'aime, ben, on va tout de suite... J'ouvre mon cœur, c'est la même chose. Si je vous crois, vous m'aimez, n'est-ce pas? Mais vous pouvez vous tromper et me tromper. Est-ce que je vais vous aimer moins après cette sale expérience? Non! Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes en progression comme moi je suis en progression. Par contre, Dieu, lui, n'est pas en progression. Alors notre amour, notre confiance en lui, elle peut être complète, absolue, totale. Alors que dans l'homme, c'est mitigé. Et voilà pourquoi on a besoin du pardon. Bon, tu m'as trompé, t'as fait exprès ou pas. Mais je te pardonne. Il y a le pardon. Mais tu n'en pardonnes pas à Dieu. Il ne sonde jamais. Mais encore faut-il l'écouter, pas prendre notre propre voix pour la voix de Dieu. Voilà pourquoi notre confiance dans les gens et les choses n'ont pas de base stable, parce que on est en progression. Ça ne peut être stable que si nous plaçons d'abord notre confiance, notre foi dans l'amour de Dieu. Alors si on place d'abord notre foi, notre amour et notre espérance en Dieu, alors quand on fait confiance à notre prochain, ce Dieu tout-puissant que nous aimons, que nous vénérons, en qui nous espérons et en qui nous avons foi, nous protège. Et il ne permettra pas que notre pied chancelle, trébuche, je ne sais plus quoi, oui, c'est comme ça. Il ne permettra pas que ça aille trop loin, que ça soit, qu'on tombe dans la désespérance. Vous voyez, quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas être totalement déstabilisés parce que nous avons une base solide, notre amour pour Dieu, notre espérance en Dieu, notre foi en Dieu. On a un Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a dit et ce qu'il a fait autrefois, ça constitue notre foi Et notre espérance, elle est basée sur notre amour et notre foi. Elle ne peut pas être trompée. Notre espérance en lui, notre foi en lui, quoi que puissent nous faire les gens, bon, on pourra être un peu attristé. C'est vrai, un peu ébranlé, mais jamais en chute libre. Jamais. Jamais. Pourquoi ? Parce que nous espérons, nous avons foi, nous aimons Dieu. Et c'est notre base, et sur cette base, on peut construire. Alors maintenant, quand on fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose, une chaise par exemple, quand on fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose, et que nous avons cette base de croyance, d'espérance et de foi en Dieu, on a le choix de construire, c'est-à-dire de faire confiance à l'un plus qu'à l'autre, parce que nous avons discerné une exubérance chez l'un, une stabilité chez l'autre, donc on choisit quand même, on a le choix des matériaux avec lesquels nous allons construire, ça fait, nous devons être sages, et notre sagesse, la Bible nous dit aussi que l'intelligence est un don de Dieu. Tout revient là. Celui qui sait écouter Dieu a moins de chances de se tromper. On a le choix, on peut construire avec des matériaux, l'apôtre Paul dit, des nobles ou des moins nobles, du chaume, du bois, de la pierre, de l'or. Alors, c'est vrai que ça coûte plus cher d'investir avec de l'or qu'avec du chaume, il faut savoir ce que vous voulez dans votre vie. Choisissons d'investir le maximum. Le paysan, il peut se dire, bon, j'ai des grains, là, je vais les semer, ça m'embête d'aller jusqu'à mon champ, je vais les semer sur le chemin, alors, il est idiot. Non, il faut faire un investissement, il faut aller jusque là-bas, c'est long, c'est loin, mais là-bas, on sait que ça va pousser, c'est une bonne terre, vous voyez. Et donc, nous avons tout le temps des choix à faire avec notre intelligence, notre savoir, notre culture, ce qu'on a appris. Et ce que Dieu nous apprend, parce qu'il nous apprend, tout n'est pas écrit. Par exemple, aujourd'hui, au sujet du choix de votre smartphone, c'est pas écrit. Mais vous avez une intelligence pour savoir faire le bon choix. Bon choix, mesdames, bon choix, mesdemoiselles, bon choix, messieurs. Prions pour que la France fasse le bon choix aujourd'hui. Moi, je suis suisse, je vote pas. Mais je peux prier pour que, voilà, ça aille bien. Choisissons d'investir dans le meilleur, dans le maximum. Et si nous sommes trompés, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Jamais. En Afrique, je disais à Nicolas, mais moi je ne peux pas te promettre que je vais te donner ça. Je ne peux pas te promettre, je ne sais pas si je vais... Il me dit, mais promets-moi quand même, parce que bon, ici on vit d'espérance. L'espérance nous fait vivre. Je dis, oui, mais si après je peux pas tenir parole. Il dit, ben c'est pas grave. Mais quand on a l'espérance, ça nous fait vivre. Je dis, oh, c'est dur. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose d'espérer. L'espoir fait vivre. Mais il nous revient quand même de ne pas placer notre espoir sur n'importe qui et sur n'importe quoi. Nicolas, avec nous, il a eu une bénédiction parce que jusqu'à maintenant, on a toujours pu faire ce qu'on a dit qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'il va venir, là, normalement, je crois, avant le 20 décembre. Il voudrait passer les fêtes avec nous. C'est sympa, hein ? On va passer des bons moments. Si vous placez votre espoir sur l'argent, sur des êtres faibles, sur des êtres instables, en vous imaginant qu'ils vont vous aider, ben vous allez être déçu, c'est normal. Mais on voit quand même, on sait ça. La seule vraie force, la seule vraie stabilité, c'est la toute-puissance divine. Donc, voilà pourquoi il nous est dit, recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Mais il faut recommander notre sort à l'Éternel, invoquer son nom sur notre vie. Fais de l'Éternel tes délices et il agira. Il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, je crois. C'était, ou 34, je ne sais plus. Pas seulement ce dont tu as besoin, mais ce que tu désires. Visualisez ce que vous désirez. Voyez dans votre tête, dans votre cœur, qu'est-ce que vous désirez. Moi, je sais ce que je désire aujourd'hui. La seule vraie force, c'est ça. De mettre tout, toute notre confiance, notre amour, notre âme, tout ça en Dieu lui seul, comme ça on n'est pas déçu. Il va faire tout pour, par amour pour nous, il va mettre tout en dessus dessous pour nous, c'est-à-dire qu'il va même faire des miracles pour que nous puissions avoir ce que nous désirons. Faire un miracle, c'est faire quelque chose qui n'est pas normal dans la nature pour faire quand même pour qu'on ait ce qu'on désire. Mais il est comme ça. Il nous aime tellement qu'il est capable d'aller contre ses propres lois par amour pour nous. Il le fera par amour. Et puis, si vous l'aimez réellement, il vous donnera la sagesse à cause de son amour pour vous. Et puis surtout, parce que vous parlez de lui, vous vous mouillez sans cesse, vous dites sans cesse que vous avez confiance en Dieu, vous dites partout que vous aimez Jésus, que Jésus vous aime. Alors, à cause de son nom, il vous bénira. C'est de l'intelligence. C'est de la sagesse. C'est merveilleux. Alors on va aller un peu plus loin, vous voulez ? Juste un peu plus loin. Nous sommes un corps, nous sommes une âme, nous sommes un esprit. Et il y a trois vertus théogodales. Vous savez ce que c'est que maintenant ? La foi, l'espérance et l'amour. Dans notre condition mortelle, nous habitons un corps. Et notre corps, il est lié à l'espérance. Notre âme, le cœur si vous voulez, il est lié, c'est lié à la foi. Et notre esprit, il est lié à l'amour. La forme, c'est-à-dire notre corps, prépare et préserve le contenu, c'est-à-dire cette intelligence, cette sagesse, ce qu'on appelle notre cœur, notre être, et notre esprit. Et notre foi est liée à notre âme. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend. C'est-à-dire que la foi, elle passe par l'intelligence. L'intelligence, c'est pas l'esprit. C'est l'âme. Mais la foi, ça passe par notre intelligence. Moi, quand j'ai vu Raphaël mettre ses mains sur les malades et j'ai vu les malades guéris, j'ai dit, si ce bonhomme-là, qui a le nez au milieu de la figure comme moi, peut le faire, alors ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Ça, c'était intelligent. Mais je ne connaissais rien de la doctrine du sujet des guérisons, de la guérison des malades. Mais c'était simplement intelligent. La foi, ça passe par l'âme. La foi vient de ce qu'on entend, dans le sens de ce qu'on comprend. Et quand j'ai vu, j'ai compris. J'ai dit, ben c'est bon. Et j'ai mis mes mains sur un paralytique qui avait la maladie de Parkinson et qui était guéri. Gloire à Dieu. C'est comme ça que ça a commencé. Puis après, j'ai appris toute la doctrine sur la guérison des malades et toutes ces choses. Mais d'abord, ça doit passer par l'intelligence, par l'âme. Et l'esprit, il est lié à l'amour, parce que l'esprit, il est de la même essence que Dieu qui est amour. Donc là, ça peut coller. C'est le vrai amour, c'est pas un amour dégénéré. Mais vous voyez, l'amour n'a de raison d'être que s'il a un sens. J'explique. Quel sens a votre vie ici-bas ? Un sens spirituel ou un sens psychique ? Psy, ça veut dire âme, être. C'est quoi le but de votre vie ? Quel est le sens de votre vie ? À quoi elle sert ? Tout à l'heure, Olivier nous disait, j'ai consacré ma vie pour Dieu, dans l'œuvre de Dieu. Sa vie, elle a un sens, il sait où il va, il a un but. Les premiers chrétiens, ils étaient un seul cœur, une seule âme, ils avaient un seul but. C'était quoi leur but ? Le travail numéro un de Dieu. Et c'est quoi le travail numéro un de Dieu ? De construire les cathédrales ? Non, de sauver les âmes. D'amener le plus grand nombre possible de personnes à la foi en Jésus-Christ. Et c'était ça leur but, et c'est ça le nôtre. Il n'y a pas d'autre but. On a des autres petits buts. Normaux, comme tout le monde, il faut changer de voiture de temps en temps. Mais ce n'est pas le but de ma vie. Si vous avez conscience que votre esprit est venu tabernacler votre corps, habiter votre corps, alors vous avez conscience que tout est spirituel, que tout est sous contrôle de Dieu. Et c'est à partir de cette conscience-là que l'amour que vous avez pour Dieu peut jaillir sur les autres. Mais ça doit d'abord commencer en vous. C'est vous qui devez avoir cette conscience que tout est spirituel. Mais tout. Il n'y a rien qui n'est pas spirituel pour l'homme spirituel. Tout est spirituel. Bref, si vous faites comme cela, alors vous êtes en harmonie avec le Créateur, c'est lié aussi avec la création. Puis ceux qui ne sont pas du tout en harmonie avec vous, c'est que, bon, vous savez, il y a quand même deux... Il y a la science du serpent aussi, ça existe, hein. Alors, j'essaye pas de tourner les mots pour vous emberlificoter dans une espèce de philosophie à la noix de coco. Ce sont des mots que j'utilise pour que vous puissiez comprendre le verbe. Le verbe. Jésus lui-même, quand il est apparu, parce que les mots, quand ils apparaissent pas exactement comme la véritable réalité qu'il cherche à représenter. Même Jésus, quand il est apparu sur terre, il n'est pas apparu tel qu'il est réellement. Il s'est montré de façon à ce que nous puissions le voir et le comprendre sans mourir de peur. Parce que quand il se montre à Jean après, quand vous lisez ça dans l'Apocalypse, Jean qui connaissait Jésus, qui l'aimait tout, qui avait passé du temps avec lui, il ne l'a pas reconnu, il est tombé par terre, il a eu peur. Jésus a dit, c'est moi. Donc c'est la même chose, le verbe ou les mots que nous employons ne représentent pas vraiment ce qu'ils sont en réalité. Donc les mots que je vous dis, il faut que vous soyez spirituel pour aller au-delà, pour aller plus loin que ces mots-là, afin que vous puissiez avoir une vie qui dépasse la signification de simplement ces mots. Maintenant, on va déjà être précis sur leur signification, bien sûr, mais quand même, il faut aller plus loin que ça. On doit toujours aller plus loin que tout. Et quand il est apparu sur l'île de Patmos, il était tellement différent. Et c'est tellement différent encore de ce que je vous ai dit, qui est pourtant vrai, ce que je vous ai dit c'est pourtant vrai, mais la réalité réelle, quand vous allez vivre ça, ça va devenir tellement plus fort. Les mots, ils continuent à voiler l'esprit dans la chair. Comme Jésus s'est voilé dans une chair, les mots qu'on emploie, le verbe s'est voilé dans la chair, les mots qu'on emploie se voilent encore dans la chair. C'est pas encore tout à fait ça. Mais on en a besoin. Il y a des réalités plus subtiles que seul l'esprit peut comprendre. Alors, il faut être spirituel. Recevez le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Comme je vous enseignais vendredi soir. Je crois que c'était vendredi soir. Non, c'était l'autre, je disais, respirez, expirez, c'est-à-dire prenez et donnez. Il ne suffit pas de croire, voilà, ben, il m'a donné le Saint-Esprit, point. Non, il nous l'a donné pour quelque chose. Il n'a pas dit, vous recevrez le Saint-Esprit pour parler en langue dans vos réunions. Non, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit pour être mes témoins. Ah, oh. Ça veut dire quoi, témoin? Ça veut dire d'aller distribuer des tracts dans la rue? Non, ça veut dire témoin, ça veut dire d'être ce qu'il était. D'être comme une maison témoin, voilà, la maison que vous allez avoir, eh bien, elle sera exactement comme cette maison que vous visitez là. Quand vous allez connaître Jésus, eh bien, il sera exactement comme moi je me présente. Wow, Michel, tu oses dire ça? Pas la foi. Mais c'est pourtant notre but, c'est d'arriver, de progresser. Il ne faut pas se décourager, on a encore tous des progrès à faire. Le problème, c'est que nous avons tous des instabilités, et voilà, donc nous devons nous stabiliser, faire des progrès. Il ne faut pas se décourager, mes frères et sœurs, jamais. Nous avons tous un chemin à parcourir. Alors, il y a une échelle qui monte, et qu'on soit au 3e ou au 30e échelon, peu importe, pourvu qu'on continue à monter. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas redescendre surtout, pour aucune raison. Continuez à monter, continuez à chercher, continuez à aller sur ses genoux, continuez à prier, continuez à invoquer le nom du Seigneur, continuez à avoir confiance, continuez à avoir cette foi, cette espérance, cet amour, malgré tout. Que peut me faire un homme? Rien. Que peut me faire un démon? Rien. Je suis dans la forteresse. Amen. Et combien de temps que tu es dans la forteresse, Rachel? Pouh, il y a longtemps, hein? Avant moi encore. Ouais. Mais c'est le même homme qui nous a conduit à Jésus, Raphaël. Ouais. Dieu soit béni. Alors, continuez à chercher, continuez à frapper, continuez d'appeler, continuez de prier. Ne vous relâchez pas avec espérance, avec foi, avec amour. Je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Jamais. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il l'a dit, il le fera. Jésus, je te prie de bénir ces choses que j'ai dites ce matin. Et si tout n'a pas bien été compris, merci pour la technologie qui nous permet de réécouter afin de mieux saisir. Merci Seigneur de remplir chacun et chacune de ton esprit alors que nous allons revenir devant toi pour te louer, t'adorer, te rendre grâce pour toutes choses. Je te prie pour ceux qui sont sur le net et qui écoutent. Je te demande Seigneur Jésus de leur donner de réfléchir, de prendre des notes s'il faut, de penser, de méditer, réfléchir. Mais réfléchir avec le secours de ton esprit, afin que les choses mauvaises, des choses déstabilisantes qui les entourent, ou qui se sont peut-être même installées en eux, puissent être maintenant démasquées et mises hors état de nuire. Dans le nom de Jésus, je te le demande, mon Dieu. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Au revoir.